de cela. Parce que je tiens à préciser à nos auditeurs que vous viendrez régulièrement nous faire des mini petites conférences comme voilà. ça pour donner envie aussi d'aller vous écouter parce que c'est passionnant. C'est passionnant ce que vous nous dites. Et je crois que vous faites un grand cadeau à Radio Neptune parce que vous allez parler de...
Neptune.
Wow.
Alors,
nous vous écoutons.
Voilà, je me suis évidemment posé la question comment faire pour parler de l'art à la radio, un médium sans images. Mais je ne suis pas la première à le faire. Il y a déjà Daniel Arras qui l'a fait il y a quelques années. Évidemment, je ne lui arrive même pas aux chevilles à Daniel Arras. Mais bon, je me suis dit que je vais quand même essayer de proposer quelques pistes de réflexion sur le pouvoir des images, sur le pouvoir des artistes aussi. Et puis, quand je me disais par quoi commencer, par quelle image, il fallait que je trouve une image qui est connue, qui n'est pas forcément une icône, hein, pas forcément la Joconde, hein, mais pas confidentielle non plus. Une image que les auditeurs frustrés de ne pas voir, juste de m'entendre, peuvent trouver facilement dans les livres ou même sur Internet, hein, pianotant un petit peu. Donc une image qui serait en même temps assez facile à décrire, mais qui aurait la vertu de poser beaucoup de questions. Et puis enfin, une image qui trouverait toute sa raison d'être expliquée à la radio Neptune. Et donc, c'est ainsi que mon choix s'est porté sur le portrait d'Andrea Doria en Neptune, un tableau qui a été peint au milieu du XVIe siècle par Bronzino, un artiste florentin, dont on peut actuellement admirer une grande exposition au Palazzo Strozzi à Florence. Donc les auditeurs voyageurs, je les invite évidemment à se déplacer à Florence et voir toutes ces merveilles. Voilà. Alors, je vais d'abord décrire cette image. Donc, c'est une huile sur toile. C'est un tableau qui fait 5,1 sur 53 cm et qui est conservé à la Pinacothèque de Brera à Milan. Qui a été peint, alors les dates, je vais y revenir tout à l'heure, sont incertaines, on est entre 1540 et 1555 en gros. Alors c'est un tableau qui a un format vertical, donc c'est un grand rectangle, et toute la surface est occupée par une figure masculine, dont on voit la tête, le buste et le haut des cuisses. Et c'est un portrait en grandeur nature, hein, donc il faut s'imaginer ce personnage vraiment assez imposant en face de nous. Donc c'est un homme d'un certain âge, en tout cas à en croire la couleur argentée de sa barbe, et pourtant avec peu de rides et surtout avec un corps musclé qu'on apprécie d'autant mieux que cet homme est nu. Sa main gauche tient une voile, hein, c'est une voile, hein, c'est pas un voile, c'est une voile qui cache à peine son sexe, tandis que sa main droite enlace un grand trident. Il pose devant un mât de bateau sur lequel est gravé son nom à lettres capitales dorées, A. Doria. Et il s'agit donc d'un personnage célèbre de la vie politique de l'époque. C'est le condottiere Andrea Doria, amiral de Gênes et excellent marin, qui a restauré la liberté génoise. Donc il a même un monument à Gênes, évidemment, qui lui est consacré. Et donc c'est cet homme puissant qui se fait portraiturer par un grand artiste de son époque, un Neptune. Qui est donc Neptune? Alors nos auditeurs le savent sans doute, Neptune en latin ou Poséidon en grec, c'était le frère de Jupiter, donc du dieu de tous les dieux, et Neptune était le dieu de la mer. Celui qui avait le pouvoir de déchaîner les tempêtes et même de calmer les eaux des mers et océans. Alors Andrea Doria, excellent navigateur et commandant des bateaux de guerre, en se faisant représenter à l'effigie de Neptune, veut clairement mettre en valeur ses compétences et ses performances maritimes. Et cette image, évidemment, nous amène à parler de l'art du portrait allégorique. Donc on est au milieu du XVIe siècle, au moment où Nostradamus est en train de mourir. Pas dépaysé, on est tout à fait à la même époque. Et donc au moment où Bronzino peint ce portrait, un long chemin a déjà été parcouru dans la représentation de la figure humaine, du corps et du visage. Les artistes aussi bien italiens que flamands, français, même allemands, ont portraituré déjà les grands hommes de leur époque, en apportant de plus en plus de savoir-faire, de virtuosité dans ces images. Mais pour autant, même si le critère de ressemblance est important, en tout cas à cette époque-là, c'est encore quelque chose qui compte. Le portrait, pourtant, ce n'est pas une photo d'identité qui enregistre le plus objectivement possible les traits physiques de la personne représentée à un moment précis de sa vie. Hein, le portrait, c'est bien plus une image, si j'ose dire, faite pour l'éternité. Dans chaque portrait, le portraituré et le portraiturant, l'artiste, veut faire passer un message sur le caractère de la personne qui est représentée, sur sa situation sociale, sur ses convictions, hein, sur ses idées. Et ainsi, nous comprenons mieux pourquoi Doria Grandmarin choisit de se faire représenter à Neptune. Hein, il y a évidemment un lien tout à fait logique. Hein, dans cette représentation. Il ne se fait pas représenter en Apollon ni en Vénus.
Non, Vénus aurait été plus dur.
Ça aurait été peut-être drôle, mais ça aurait été plus dur. Alors, nous comprenons aussi de ce fait-là l'effort d'idéalisation de la part de l'artiste. Donc, comme je vous disais, la datation de cette œuvre est incertaine. Il y a quelques historiens de l'art qui la situent vers 1540, d'autres vers 1550, voire un peu plus tard. Mais en tout cas, l'amiral n'est pas un jeûné, puisque Doria est né en 1466. Donc, au milieu du 15e, du 16e siècle, il a quand même plutôt 80 ans que 20 ans. Hein, c'est plutôt un monsieur âgé. Or, on voit bien que son visage a relativement peu de rides. Il n'y a pas la chair encore molle, enfin la peau flasque, comme on dit. Voilà, hein, on voit bien le visage inspire une certaine encore force. Et puis surtout, son corps est bien musclé. Hein. Sylvie m'a fait tout à fait remarquer, mais ça ne va pas, la tête et le corps. Non, ça ne va pas ensemble. Donc il y a sans doute effectivement une part de l'exagération de la part de l'artiste, qui par ailleurs donc, a une très bonne connaissance des nus de Michel-Ange, hein, donc les Ignudi de la chapelle Sixtine de Vatican, ou la chapelle Medici à Florence, les sculptures de Michel-Ange, ce sont des nus puissants, et le nu que nous montre Bronzino, hein, le corps d'Andrea Doria, est tout à fait de cette puissance, hein, de cette puissance visuelle, de ces masses énormes de muscles. Donc Bronzino est un artiste qu'on qualifie d'ailleurs de maniériste. Donc c'est un peintre qui est né au début du XVIe siècle, en 1503 précisément, au moment où toutes ces grandes conquêtes de la peinture italienne sont déjà là. Et donc il n'a plus besoin de chercher par soi-même comment représenter, entre guillemets, correctement l'espace ou le corps. Hein, c'est déjà acquis. On l'apprend à l'époque comme une évidence. Hein. Les jeunes artistes, ils apprennent ça, on leur explique, c'est comme ci, c'est comme ça, et on apprend ça. Donc il va chercher dans ses œuvres à montrer son talent en exagérant les volumes. Donc ici, notamment ce corps imposant de l'homme, dont la tête peut sembler au fond assez petite par rapport à cette musculature. C'est vraiment le canon maniériste, hein, de montrer un corps fort, épais et imposant, et une tête qui tout d'un coup va paraître plutôt petite. Et donc Bronzino va aussi lisser la touche dans ses peintures jusqu'à donner un aspect glacé à ses tableaux. De nombreux portraits et autres tableaux de Bronzino sont un régal pour les yeux, tant les couleurs sont éclatantes sur les tissus et sur les chairs lisses. Ici, l'artiste choisit une gamme de couleurs réduites, l'harmonie ocre qui va donner une gravité à la scène. La voile sombre qui est sans doute accrochée aux mains, quelque part en haut, hein, en dehors de l'espace du tableau, et comme un drapé qui magnifie le personnage. C'est un artifice qui est très exploité par les artistes dans les représentations officielles. Donc cette voile occupe tout l'arrière-plan à côté du mât et cache éventuellement une surface marine qui ne serait qu'un détail pittoresque dans ce portrait de celui qui aussi fait trembler la terre. Thank you.
Nous sommes toujours sur le 95 FM, Radio Neptune à Brest. Nous étions justement en train de parler de Neptune avec Sonia Depuis-Neuf, qui nous demandait tout à l'heure une musique qui fait gronder la terre. Et bien cette musique, c'était Vincenzo Bellini, un Norma. C'était l'ouverture, l'acte 1, sous les directions de Tullio Serafin, l'orchestre de la Scala de Milan. Voilà. Et comment dire bien, on aurait pu en parler hier soir de Bellini parce qu'il est né un 3 novembre. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà, voilà. Ou mort, attendez, que je dise pas de bêtises.
Plutôt mort.
Plutôt mort, mais oui, bien sûr. Oui, oui, il est mort d'ailleurs hyper jeune. Hyper jeune. On parle que de musiciens qui meurent hyper jeunes. Tout à l'heure, on parlait de Mendelssohn, de Chopin.
Enfin, vous célébrez jamais les naissances que les décès.
Non, je crois qu'on fait que les décès. Mais j'aimerais qu'on fasse les naissances. Non, non, Bellini, effectivement, il est né en 1800 et est décédé en 1835 à 3 novembre. Oh, il aurait pu naître aussi à 3 novembre.
Peut-être.
Enfin, bon. Continuons sur Neptune.
Sur Neptune. Alors, on parle donc d'un tableau.
On parle d'un tableau,
portrait.
Oui. Quel dommage que nos auditeurs ne puissent pas voir le tableau. Mais dans vos conférences, on les voit, les tableaux.
Oui, on les voit. Oui, voilà. Oui. Toujours en projection, évidemment, on ne les voit pas en vrai. Sauf quand on va ensuite les voir au musée.
Oui.
Eh bien, on parlait d'Andrea Doria qui est représenté à Neptune. Et évidemment, on peut avoir l'impression que c'est un tableau assez sexy. Donc, je vais aborder maintenant la question de l'érotisme. Puisque... Pour beaucoup d'autres artistes maniéristes, l'érotisme est une donnée importante pour Bronzino qui fait ce portrait. Mais on peut se dire qu'il en est de même pour Doria, puisque ce portrait officiel nous interpelle surtout par le choix de la nudité. Bien sûr, la nudité n'est plus un tabou à cette époque-là. Les artistes de la Renaissance aiment les sujets mythologiques qui leur permettent de représenter des corps nus. Tout le monde connaît la Vénus de Botticelli, ou encore d'innombrables effigies de Diane à Fontainebleau qui visent à célébrer le charme incontestable de Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II. Les hommes modernes ont regardé avec grand intérêt les œuvres antiques que l'on sortait des terres à Rome et ailleurs. Apollon de Belvédère, avec son corps d'athlète, est devenu le modèle pour beaucoup de sculpteurs. Alors, pourquoi pas Neptune ? Il faut comprendre que dans ce tableau précis, la nudité vise à exalter la virilité du personnage, qui elle-même rime avec le pouvoir. Comment autrement serait-il possible de montrer ce vieillard, un homme fort et puissant, si ce n'est en dévoilant ses biceps impressionnants, son large torse, ses cuisses épaisses, voire un soupçon de son sexe? Ce tableau nous amène aussi à se poser des questions sur la perception du corps à une époque donnée, une époque qui connaît les pires épidémies, en particulier la peste. Et Bronzino, d'ailleurs, a fui Florence dans sa jeunesse pour y échapper. Ainsi, le corps sain, beau, fort, c'est certainement le meilleur ambassadeur qui puisse être d'un pouvoir qui veut inspirer le respect et la gravité. C'est un choix original, et sans doute que Doria devait avoir un physique impressionnant pour s'y risquer. Il est rare de trouver ce type d'image où l'homme du pouvoir et le nu se confondent à ce point, même à des époques plus proches de nous. Plus habituellement, le nu est réservé à un personnage mythologique pur ou à une allégorie qui n'est pas un portrait de quelqu'un de précis. Alors on peut penser à la camaraderie du pavillon de l'Allemagne lors de l'exposition universelle à Paris en 1937. On y voyait deux jeunes hommes nus, puissants, bien plantés dans le sol, qui se donnaient la main. Leur visage, toutefois, était anonyme. Certes, ils évoquaient le type, entre guillemets, arien que voulait le Troisième Reich, mais ce n'étaient pas des portraits d'hommes publics, hein, d'hommes du pouvoir. Donc, ici, dans ce tableau dont je vous ai parlé, évidemment, c'est tout à fait différent, puisqu'on peut identifier parfaitement le personnage. Il y a son nom, il y a son visage, et il y a ce corps nu qui est exposé publiquement, finalement, puisque c'est un portrait officiel. Donc, pour conclure sur cette première image que je voulais vous faire découvrir, et qui est donc une image simple à décrire, mais qui est riche en signification, Bronzino a peint un tableau qui nous a fait découvrir beaucoup de choses qui préoccupaient les artistes de son époque. C'est un portrait officiel d'un homme de pouvoir, mais aussi un portrait allégorique qui fait appel à la mythologie antique, remise au goût du jour par les artistes de la Renaissance, cette mythologie qui autorise à représenter la nudité. On est là vraiment dans le nu idéal héroïque qui est calqué sur la réalité historique. Et donc, je dirais que pour en savoir plus sur...